Peut-être que vous avez acheté une voiture usagée ou que vous envisagez faire l'achat de cette dite voiture. Acheter une voiture, ça peut paraître très simple, mais il y a beaucoup de petites subtilités auxquelles on doit penser. Et pour en discuter aujourd'hui, on jase avec Catriane Hamel, étudiante en droit au Centre de justice de proximité de l'Outaouais. Catriane, bonjour.
Allô, ça va bien?
Très bien. Et là, ben, on va s'assurer que tout le monde ait les bonnes informations puis qu'on n'ait pas de mauvaises surprises. Commençons en parlant des procédures. Si on achète d'un particulier, par exemple, si on trouve une voiture à notre goût sur Marketplace, mettons.
Donc, premièrement, c'est important de vérifier avec qui on fait affaire. Donc, est-ce que c'est réellement un particulier ou est-ce que c'est une entreprise, par exemple, qui souhaite se faire prendre par un particulier? Donc, c'est important de faire la distinction puisqu'on va voir qu'il va avoir des impacts différents un petit peu plus tard.
OK.
Donc, une fois que ça, c'est fait, qu'on s'est assuré de la personne, il va être pertinent d'aller voir la voiture, donc de prendre connaissance du véhicule. Donc, on parle d'observer s'il y a des égratignures, un bruit quelconque, une usure anormale pour le kilométrage indiqué, un bris, donc, etc. Donc, la liste pourrait être très, très longue. Il est aussi important de faire un essai routier, donc, ce qui va nous permettre de connaître encore mieux l'état du véhicule. Puis, on veut être certain d'avoir bien évalué celui-ci, donc, c'est pour ça qu'on voudrait faire l'essai routier. Donc, le mieux, là, c'est d'aller faire une inspection, donc aller faire inspecter le véhicule chez un mécanicien mandataire autorisé par la SAC, donc la Société Assurance Automobile du Québec. Donc, de cette façon-là, on va être certain qu'on n'aura pas de mauvaise surprise. Donc, il est aussi à noter que certains véhicules vont nécessiter un rapport d'inspection par ces mécaniciens mandatés-là pour être immatriculés, pardon. Donc, comme les véhicules provenant de l'extérieur du Québec, eux, ils vont nécessiter ce rapport d'inspection-là.
Mm-hmm.
Vous devriez aussi exiger les factures en lien avec les entretiens et réparations avec la mention de kilométrage. Puis, dans la même lignée, vérifier l'historique du véhicule en vous rendant sur le site web SACLIC, donc de la SAC.
Mm-hmm.
Puis, aussi de faire une vérification que ce n'est pas un véhicule volé en vérifiant sur le site web du Centre d'information de la police canadienne. Dernièrement, de vérifier que le véhicule est libre de prêt. Donc, bien qu'il y ait eu un changement là, de propriétaire, le véhicule qui a un prêt va demeurer avec le prêt. Donc, c'est important d'aller vérifier ça. Parce que si, par exemple, le véhicule avait un prêt, le créancier, donc la banque, pourrait quand même venir saisir le véhicule s'il y a un arrêt des paiements, même si ce n'est pas la personne qui a contracté le prêt, par exemple.
Ça rentre dans la catégorie mauvaise surprise.
Exactement. Donc, pour éviter ces mauvaises surprises-là, il faut consulter le registre des droits personnels et réels mobiliers afin de savoir s'il y a un prêt à sortir au véhicule. Donc, pour ce faire, il va falloir payer un montant fixe. Par contre, ça vaut quand même le coup là, de vérifier tout ça.
Mm-hmm.
Puis, si vous avez besoin de plus d'informations là, quant à ça, vous pouvez toujours consulter Éthique-Loi, Protégez-vous ou encore l'Office de la protection du consommateur là, pour avoir un peu plus d'informations sur ces achats-là. Petite note aussi à part, il faut faire gare aux fraudeurs. Donc, on ne va jamais être trop vigilant. Là, donc, quand on pense que ce qui se passe est douteux, on prend le temps d'analyser la situation, de vraiment prendre un pas d'arrière pour vérifier le tout. Donc, par exemple, si quelqu'un demande un acompte avant d'aller voir le véhicule, ben ça pourrait être une façon de plus jamais voir l'argent qu'on va donner en acompte, ni de voir la voiture.
Bon, Catriane, disons, là, on a fait toutes les étapes, ça va bien, on a coché toutes les petites cases. On arrive donc à celle, la dernière étape, celle d'acheter le véhicule.
Oui, donc presque. Donc, une fois qu'on va avoir négocié puis qu'on va être entendu sur un prix, ben c'est l'heure de rédiger un contrat. Donc, avoir un contrat, c'est un peu, je dirais, entre guillemets, facultatif. Donc, je m'explique, là, le contrat écrit va être facultatif. Là, toutefois, à la minute qu'on va s'entendre sur la vente, que ce soit oral ou par des messages textes, on va avoir un contrat.
Okay.
Donc, du moment où est-ce qu'il y a une offre contenant les éléments essentiels comme le prix et la voiture dont il est question, puis qu'il y a une acceptation de l'autre côté, on a un contrat. Donc, quand que je dis qu'on fait un contrat, c'est vraiment d'écrire les éléments noir sur blanc de ce qui ont été entendus. Donc, bien qu'un contrat puisse se faire oralement, c'est toujours mieux d'avoir l'écrit. Comme ça, on va avoir une preuve de ce qu'on s'est entendu. Donc, chaque partie, le vendeur et l'acheteur, va avoir sa copie. Puis comme ça, s'il y a un problème par la suite, on peut toujours se référer à ce document-là. Donc, le contrat, lui, va contenir les noms, les coordonnées du vendeur et de l'acheteur, la date de la formation du contrat, puis ensuite les modalités du contrat. Donc, le contrat va porter sur la vente d'un véhicule. On va avoir besoin de la marque du véhicule, du modèle, du numéro d'identification du véhicule, du kilométrage, de la condition du véhicule et de son utilisation antérieure. En bref, là, vraiment toutes les informations qui portent sur le véhicule. On peut aussi aborder la garantie. On doit aussi mentionner les modalités de paiement. Donc, y a-t-il un acompte, comment fonctionne le paiement. Puis une fois qu'on aura complété le contrat, on peut y apposer les deux signatures.
OK.
Le contrat, c'est vraiment un bel outil. Là, comme je mentionnais, si une mésentente survient, on a sur papier ce qu'on a convenu, ce qui signifie que si un problème arrive, bon, on va avoir une preuve de ce qui a été entendu, puis on évite ainsi les situations où est-ce que c'est la parole d'un contre l'autre.
Puis qu'est-ce qu'on doit faire là, une fois que notre contrat est rempli?
Donc, on doit faire un transfert de véhicule et d'immatriculation pour que le tout soit en règle avec la SAC. Donc, pour ce faire, on va consulter le site web de la SAC, donc saclic.gouv.qc.ca, puis on va se connecter afin d'y effectuer le transfert. Donc, il va y avoir des instructions disponibles sur le site web, mais en bref, le vendeur va devoir transférer le véhicule à l'acheteur. En se connectant, l'acheteur va trouver la transaction qui va nécessiter son acceptation. Puis en acceptant, la SAC va offrir l'option à l'acheteur d'immatriculer le véhicule par soit l'achat d'une nouvelle plaque ou en conservant la sienne qui est existante. Donc, il est important de ne pas oublier que cette procédure-là est nécessaire si on veut que le véhicule soit immatriculé, donc qu'on veut qu'il puisse circuler sur la voie publique. Mm-hmm. Une partie très importante, c'est de ne pas oublier de payer les frais de TVQ qui vont s'appliquer. Donc, lorsqu'on vend un véhicule usagé, il va y avoir des frais de TVQ. Ça va être la SAC qui va percevoir ce montant-là, mais comme c'est une vente d'un particulier à un autre, il n'y aura pas de TPS.
Bon, on vient de couvrir ce qui englobe la vente d'un particulier à un autre, mais est-ce que c'est le même cadre quand on achète d'un concessionnaire?
Non, donc c'est un petit peu différent. Lorsqu'on achète d'un concessionnaire, on va avoir accès à l'Office de la protection du consommateur et la loi sur la protection du consommateur. Donc, étant donné que les concessionnaires, ce sont des commerçants, les acheteurs possèdent des couvertures différentes que ce dont on vient de parler, puisque la vente est régie par la loi sur la protection du consommateur. Ce qui veut dire que la vente sera beaucoup plus encadrée et le consommateur mieux protégé.
Bon, on parle de la loi sur la protection du consommateur puis de l'Office de la protection du consommateur qui font justement que la vente est encadrée. C'est quoi les obligations des concessionnaires?
Donc, les concessionnaires vont devoir faire attention à l'affichage. Donc, ils doivent avoir une étiquette dans chaque automobile d'occasion qu'ils vont avoir en vente ou en louage. Et cette étiquette-là va devoir contenir son prix de vente, le kilométrage que la voiture a, l'année, la marque et le modèle du véhicule, le numéro de série, la cylindrée du moteur et l'utilisation antérieure du véhicule si c'est nécessaire. L'étiquette va être annexée au contrat. Le contrat de vente ou de louage va être écrit, puis c'est aussi obligatoire là, qu'il le soit pour les concessionnaires, qu'on parlait qu'il n'était pas le cas pour les particuliers. Puis ce contrat-là va aussi devoir contenir le numéro de permis de commerçant de véhicules routiers du concessionnaire, pardon, le lien et la date, le lieu et la date du contrat, le nom et l'adresse du consommateur et du commerçant, le prix de l'automobile, les droits exigibles en vertu d'une loi fédérale ou provinciale, le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat et les caractéristiques de la garantie. Donc, quand on parle de droits exigibles, on parle par exemple de l'immatriculation. Les véhicules d'occasion sont aussi couverts d'une garantie prévue par la loi de la protection du consommateur. Ces garanties diffèrent selon l'âge et le kilométrage du véhicule. Vous pouvez vous y référer en consultant les articles 159 et 160 de la loi sur la protection du consommateur.
Disons que malgré toutes nos bonnes précautions, il y a une situation qui survient, il y a un préjudice qui nous a été causé. C'est quoi les recours qui s'ouvrent à nous?
Donc, pour les préjudices causés par les commerçants, on peut négocier avec eux. Le ministère de la Justice a annoncé le 25 octobre 2024 qu'un nouveau système de règlement des différends allait être mis en place pour les litiges entre les concessionnaires et leurs clients. Donc, ce processus-là est encadré par l'Office de la protection du consommateur et les concessionnaires faisant partie de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. Donc, eux, ils vont devoir absolument faire partie de Parle Consommation pour obtenir une certification. Okay. Donc, c'est pas tous les concessionnaires là, qui font partie de cette corporation-là non plus. Tous les concessionnaires sont invités quand même à utiliser Parle Consommation, qui est quand même un outil en ligne qui permet la négociation entre les parties, soit entre le commerçant et le consommateur. Il est aussi possible pour les consommateurs de faire une plainte à l'Office de la protection du consommateur. Toutefois, la plainte n'est pas un recours pour réclamer son dû. Donc, que ce soit un commerçant ou un particulier, il est toujours impertinent d'essayer de régler le problème à l'amiable pour essayer d'avoir une entente hors cours. Mais si le règlement à l'amiable est impossible, il est possible d'avoir un recours au tribunal. Dans ces cas-là, on va devoir faire parvenir une mise en demeure et si aucune réponse n'est donnée, déposer une demande introductive d'instance devant le tribunal approprié afin d'intenter une poursuite civile. Donc, comme on a fait un contrat et qu'on a signé avec par les deux parties le contrat, on a une preuve de ce qui doit être exécuté ou ce qui concerne le bien. Donc, on peut se baser sur les recours possibles par le manquement à une obligation ou le vice de consentement qui sont prévus aux articles 1367 et suivants du Code civil du Québec. Donc, un préjudice, ça peut prendre plusieurs formes. Par exemple, la voiture n'est pas livrée, l'acheteur n'acquitte pas son paiement ou encore il y a un vide caché avec le véhicule. Donc, ça, par exemple, ça serait des recours possibles devant un tribunal.
Moi, ce que je retiens, c'est qu'on n'est jamais trop prudent puis on prend jamais trop de précautions dans des cas comme ceux-ci. Catherine Mamel, étudiante en droit au Centre de justice de proximité de l'Outaouais. Si on a des questions, on peut communiquer avec le centre aussi?
100%, ça va me faire plaisir.
Excellent. Merci beaucoup. À bientôt.
Merci, à bientôt.